Ce soir au NRV, un dossier avortement pour en parler. Ils sont cinq autour de la table dans le studio 621 de France Inter. Je fais le tour de table pour caler les micros de chacun et chacune. Je commence par vous. Daniel Borio, vous êtes juriste, professeur de droit et vous signez « Disposer de son corps, un droit encore à conquérir » aux éditions textuelles. Comme présentation, ça va ?
Bien.
Très bien. Émile Duport, vous êtes militant chrétien, porte-parole du mouvement Les Survivants.
Oui.
C'est ça. Caroline Mécari, vous êtes avocate, conseillère de Paris, membre d'Europe Écologie Les Verts et on vous doit PMA et GPA, des clés pour comprendre au PUF.
Oui, c'est parfait.
Très bien. Marie-Cécile Na, vous êtes politologue, responsable de l'Observatoire Genre et Géopolitique à l'IRIS et auteur de Trump, la revanche de l'homme blanc chez Textuel.
Aussi.
C'est bon, ouais, deux textuels ce soir. Et enfin, Catherine Soula, vous êtes gynécologue.
Gynécologue et je pratique des IVG.
Exactement. Générique.
Un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir, c'est le NRV La Suite et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors je ne vais pas y aller par quatre chemins. Et si le droit des femmes à l'avortement, un combat gagné de haute lutte dans de nombreux pays, était remis en cause au XXIe siècle aux États-Unis, l'Alabama, la Louisiane, la Géorgie, le Missouri, l'Ohio et le Tennessee multiplient les offensives contre le droit à l'avortement dans un contexte plutôt favorable. Donald Trump a nommé à la Cour suprême des juges conservateurs. Au Brésil, l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro annonce un pays sans avortement. C'est le vœu de Damares Alves, ministre de la Famille et par ailleurs pasteur évangélique. En Europe, pas mieux. La Pologne interdit l'IVG sauf en cas de viol. En France, le républicain François-Xavier Bellamy, qui a fait campagne aux européennes, est opposé à l'avortement. Et plus de 40 ans après la dépénalisation de l'IVG, eh bien le président d'un syndicat de gynécologues avait déclaré il y a quelques mois être opposé à ces interventions. Bref, l'avortement refait débat pour un retour à la case départ. Le NRV sur l'IVG, c'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Christophe Boursaillet.
Vous savez, Laurent, moi, ce qui me frappe dans ces tentatives visant à effacer la loi Veil en France ou à interdire l'avortement dans d'autres zones, c'est que le débat semble figé. D'un côté, les partisans de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qui défendent le droit des femmes à disposer de leur corps. De l'autre, les adversaires de l'avortement, qui dénoncent un crime et une atteinte à la vie. Dès 1972, quand Gisèle Halimi, son groupe Choisir la cause des femmes, ou le mouvement de libération des femmes, ou le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, porte cette cause, elle trouve face à elle Jérôme Lejeune et son association Laissez-les vivre. Depuis 47 ans, Laurent, donc, deux camps s'observent. Alors, est-il possible de faire avancer le schmilblick ? Alors là, évidemment, j'emploie un terme que les plus jeunes, oui,
ah non,
ne connaissent pas.
Donc
peut-on faire avancer le schmilblick ? La question
impossible.
Du droit à la vie, du commencement de la vie, de la mort cérébrale se trouve sans cesse reposée, alors même que les recherches scientifiques permettent de faire reculer la mort et d'envisager de nouveaux modes de production. Alors on va commencer par le commencement, Laurent, c'est-à-dire l'Amérique. Alors Marie-Cécile Nave, pourquoi Donald Trump, à votre avis, lance-t-il aujourd'hui une offensive contre l'avortement ?
Donald Trump a besoin de l'électorat évangéliste pour être réélu. Il a été élu déjà avec 80%, plus de 80% des voix évangélistes. Son vice-président est évangéliste, Mike Pence, et c'est pas un choix qui a été fait par hasard. Il y a d'autres raisons qui expliquent ce choix de vice-président, mais ça participe de cette volonté de s'allier cet électorat-là, auquel il donne d'autres gages sur les questions israéliennes, par exemple. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas Donald Trump à lui tout seul qui relance ce débat et qui fait en sorte que dans certains États, on veuille revenir sur l'arrêt Roe versus Wade de la Cour suprême de 1973. Ça s'inscrit dans un contexte où les anti-choice sont très virulents, sont des militants très puissants, très actifs sur le terrain depuis au moins les années 80 et qui évidemment aujourd'hui se sentent galvanisés avec un président Trump qui a effectivement nommé deux juges à la Cour suprême anti-avortement, très, très conservateur, plus Neil Gorsuch que Kavanaugh. Mais enfin, les deux sont quand même plutôt dans ce camp-là.
Daniel Borio ?
Oui, effectivement, je pense qu'il est, Il pense pouvoir gagner les combats dans la Cour suprême. C'est pour ça. C'est effectivement, on a maintenant un certain nombre de lois qui conditionnent beaucoup l'IVG aux États-Unis. Mais les grands combats, ce n'est pas au niveau local, puisqu'en fait, l'idée, à mon avis, du gouvernement américain, c'est arriver à la Cour suprême avec cette majorité conservatrice et pouvoir gagner, on va dire, faire la déstabilisation totale de l'arrêt en question de 73, qui a été énormément limité depuis. Enfin, c'est un arrêt qui a été énormément conditionné. Mais je pense que l'idée, c'est de pouvoir le faire éclater avec une majorité des juges conservateurs.
Oui, parce qu'il n'y a pas du tout une loi fédérale. Hein. Le droit à l'avortement n'est pas consacré ni dans une loi fédérale, ni dans un article de la Constitution.
Ça dépend de chaque État, hein, c'est ça.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre ce qui est décidé à la Cour suprême et puis ce que peuvent faire les États dans l'accès aux conditions effectives de l'avortement. C'est l'équilibre État fédéral, État fédéré qui existe aux États-Unis. Néanmoins, on n'est encore pas du tout dans un contexte où la Cour suprême va revenir sur cet arrêt-là. Pourquoi ? Parce que le président John Roberts est très attentif à la réputation de cette institution, étant donné que dans l'opinion publique, il y a une forte majorité de citoyens qui sont favorables à la liberté de choix. Et donc, si la Cour suprême acceptait, par exemple, d'examiner certaines lois aujourd'hui votées en Alabama ou en Géorgie, même si ça prendra des années, parce que le temps qu'on ait épuisé
tous les recours
au niveau des États fédérés ou des tribunaux fédéraux, ça peut prendre des années, eh bien, ça pourrait décrédibiliser l'institution de la Cour suprême qui serait taxée par un certain nombre d'élus ou de citoyens comme étant très, très idéologique.
Émile Dupeur, comment vous regardez cette actualité américaine, vous qui militez contre l'avortement en France ?
Il y a déjà un truc, c'est que au niveau fédéral, si c'est quand même encadré l'avortement, mais simplement c'est pas encadré du tout, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avorter jusqu'à 9 mois et que après c'est les États au sein des États-Unis qui choisissent d'amener des restrictions ou pas. Donc on voit d'ailleurs qu'il y a un vide et aucun entendement sur finalement le moment où une vie commencerait intra-utérine, puisque finalement ils prennent des législations différentes selon les pays. Donc c'est un gros merdier sans nom, et donc finalement ce qu'on retient, c'est que dans l'État de New York par exemple, on peut avorter jusqu'à 9 mois. Donc voilà.
C'est la première chose. L'arrêt Roe versus Wade parle de 24 semaines et non pas 9 mois.
Bah 6 mois ouais,
c'est 6 mois pour tout, la même chose.
C'est 6 mois pour tous les États, parce que à New York par exemple, je sais qu'on peut avorter jusqu'à 9 mois. Je sais parce qu'il y a des actions qui sont menées en ce moment à New York. Bon voilà, 9 mois, faut juste se figurer le truc quoi. Bon voilà.
C'est quand il y a un grave danger pour la santé de la mère,
c'est non, pas. Non, ça c'est en France aussi. En France aussi, on a droit
à des... En France, c'est 6 mois. L'avortement thérapeutique en France, c'est 6 mois.
Non, les IMG...
Voir au-delà, effectivement, quand c'est
terme. Non, c'est jusqu'au terme.
Oui. Quand il y a un grave danger pour la santé.
Si le bébé est trisomique, on a le droit de l'avorter jusqu'à 9 mois, voilà. Donc ça, c'est un fait. Alors après, comment je reçois ça? Bah moi, je suis pas américain, je connais pas le contexte. Moi, j'aime pas trop les pro-life américains, parce que je trouve que, effectivement, comme vous le dites, ils sont assez véhéments, ils sont assez bourrins. Déjà, ils utilisent l'embryon et les images d'embryon pour manipuler l'opinion. Notamment des embryons sanglants, ce que je trouve absolument... Si on croit que c'est un être humain comme moi, on n'a pas à instrumentaliser la dépouille d'un être humain pour servir une cause, même si elle est juste. Et ensuite, je dirais que ce mouvement que vous qualifiez là, au Brésil, etc., c'est des élus tout simplement qui sentent que ça déprime leur peuple, que l'avortement les rend tristes et qu'en fait, ils font un pari sur l'avenir. Et
leur, Bolsonaro, c'est lié aussi aux évangélistes, hein, à peu près comme Donald Trump.
Ouais, mais c'est des gens qui croient en Jésus-Christ, quoi. Donc ils pensent que c'est les plus petits qui doivent être aimés et privilégiés. Donc ils sont fidèles à leur logique.
Catherine Soula. Vous qui rentrez dans le débat en tant que gynécologue.
Les plus petits, dans ce cas-là, on pourrait penser que c'est les femmes aussi, les plus petites,
tout à fait.
Maltraitées. Donc c'est à elles de choisir en fait ce qu'elles veulent faire. Et on aura beau faire des lois dans tous les sens, une femme quand elle veut avorter, elle traversera les États et elle ira là où elle peut avorter. Et parfois au péril de sa vie.
Ça c'est vrai, oui.
Mais
Écoutez, ce qui se passe aux États-Unis est d'abord s'inscrit évidemment dans un axe politique, hein, que vous avez souligné, Madame Navès, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une volonté politique de Donald Trump d'être réélu, et comme il a été élu grâce justement aux évangéliques, il donne du grain à moudre aux évangéliques. Et donc on voit bien que c'est un combat en fait entre la raison que vous venez de souligner, vous en tant que médecin, et la foi. Or la foi justement, ça n'est pas la raison. Et si on se cantonne, ou en tout cas si on s'appuie sur la question de la raison, une femme doit pouvoir avoir la liberté de procréer ou de ne pas procréer. Et vous avez très justement souligné le fait que lorsqu'en France l'avortement était interdit, donc les femmes se débrouillaient pour avorter, parfois au péril de leur vie. Alors les plus riches pouvaient aller dans des pays où l'avortement était autorisé, et donc il y avait une discrimination en plus d'autant plus intolérable qu'elle était liée à la condition sociale, ce que la loi sur l'avortement a permis de juguler et y a mis fin. Et c'est vraiment, c'est un acquis social pour les femmes qui est très 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 important.
Marie-Cécile Nave.
Oui, on sait très bien, toutes les enquêtes, les études scientifiques le montrent, et que l'interdiction de l'avortement ne fait pas baisser le taux d'avortement, il augmente simplement le taux d'avortement clandestin. Ce que je voulais dire par rapport aux États-Unis, mais c'est aussi vrai au Brésil, c'est aussi vrai en Pologne, c'est aussi vrai en Hongrie, en Italie, etc. Il y a une dimension identitaire aussi dans toutes ces tentations de vouloir revenir sur les droits à l'avortement, qui est de sauver, entre guillemets, parce que ce sont les termes qui sont utilisés par les militants ou certains élus, une nation blanche. Cette idée d'être de la peur de l'immigration, de la peur du multiculturalisme, avec en particulier aux États-Unis le fait que d'ici 2045, les Blancs seront minoritaires.
Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a toujours des recours judiciaires qui sont possibles, mais aux États-Unis, ça passe par l'économique. Il y a Netflix, Disney et maintenant Warner Bros. Qui prennent position en faveur du droit à l'avortement. Les studios américains menacent de cesser les tournages, notamment en Géorgie ou dans les États qui pourraient être anti-avortement. Est-ce que ça veut dire que le pouvoir économique aujourd'hui est le seul à intervenir pour légiférer, enfin pour éviter l'abandon de ce droit? Oui.
Bah pour moi, c'est une pure logique capitaliste, quoi. C'est finalement, c'est marrant de voir que c'est les grosses sociétés. Ouais, pardon, Émile Duport. C'est les grosses sociétés qui disent bah finalement on va militer contre le droit à l'avortement parce qu'ils veulent simplement que les femmes puissent bosser tant qu'elles veulent et pouvoir les exploiter tant qu'elles peuvent sans qu'elles soient contrariées finalement par des enfants, etc. Donc en fait c'est dans leur intérêt. Et quand on parlait de la race blanche, etc., il faut savoir, en tout cas moi, mon expérience, que c'est souvent les gens les plus pauvres qui décident de garder leur enfant si on les aide, et c'est souvent les bourgeois qui ont des projets de vie, beaucoup de sécurité, etc., qui n'arrivent pas à se résoudre à renoncer à un avortement parce qu'en fait c'est prendre trop de dangers.
Alors justement, donc en fait, pour rebondir sur ce que vous dites, Catherine Soula, qui sont les gens, qui sont les femmes qui aujourd'hui, en 2019, bien des années après la loi Veil, quelles sont les femmes qui ont recours à l'avortement?
C'est Madame Tout le Monde, mais c'est quand même un petit peu plus souvent les femmes en grande précarité, celles qui sont au chômage et celles qui ne peuvent pas subvenir. Qui sont seules dans la vie, qui n'ont pas de famille, de réseau familial autour d'elles. Et ça va quand même avec la précarité.
Hein. Oui, donc le discours capitaliste ne tient pas véritablement
debout.
Non,
mais, bah ouais, mais je pense que c'est pas vrai, quoi. Je pense que, clairement, il y a beaucoup... Enfin, c'est un tort de dire qu'il y a un avortement bourgeois, d'accord. Mais il est plus sur des centres d'accueil quand nous, on a des femmes qui nous appellent, si elles sont pauvres, et qu'elles appellent en leur disant « Mais en fait, ce bébé, il va te donner de la force, etc. » et tout, elles le gardent. Par contre, la pression parentale, la pression des beaux-parents, du petit copain, la pression sociale, la pression du patron, en gros, tous les mécanismes de reproduction sociale et de fierté familiale, fait qu'en fait, les pressions les plus fortes s'exercent dans les milieux riches, en fait. Donc, effectivement, qu'il y a des femmes qui sont obligées d'avorter parce qu'en fait, on les aide pas et on se pose pas la question du pourquoi et on se pose que la question du comment. Donc on dit, bah, puisque finalement on peut pas t'aider financièrement, eh ben on peut te proposer que l'avortement. Mais c'est, pour moi, c'est une réponse désespérante.
Alors Émile Duport a des arguments moraux. Il y a des médecins qui invoquent la clause de conscience pour ne pas pratiquer d'IVG. Catherine Soula, vous le faites pourquoi? C'est quoi la raison qui fait, qui vous motive pour pratiquer des IVG?
C'est pour aider les femmes, c'est pour leur rendre service. Dans mon service, ça se passe très bien. C'est juste pour les aider. Et c'est parce que c'est légal et voilà. C'est
comment ça se passe?
Qui se le fait bien volontiers. Et j'aime ce travail.
Mais qui s'occupe de ces femmes après? Parce que vous les voyez à un moment où elles sont tétanisées,
elles ont une pression de folle. Elles reviennent nous voir.
Et quand elles vous demandent de l'aide, est-ce que vous pouvez les aider?
Mais les femmes décident par elles-mêmes, elles n'ont pas besoin d'avoir une pression.
Mais le nombre de jeunes filles qui reviennent au planning familial en disant « Vous m'avez pas dit que ça ferait souffrir autant, vous m'avez pas dit que 2 ans, 3 ans après, je me souviendrai encore de ce bébé-là, et qui s'occupe de moi là à ce moment-là » Il n'y a personne. Il n'y a que nous qui sommes sur le web et qui essayons de répondre à toute cette détresse. Mais vous allez sur les forums un peu, vous allez sur les réseaux sociaux, vous écoutez toutes ces femmes. Mais en fait, tout le monde ne vit pas bien son avortement et on nie totalement cette souffrance.
C'est sûr qu'en passant dans vos mains, on vit moins bien un avortement.
C'est clair.
De toute façon, moi j'arrive après,
malheureusement. Si on va sur les premiers sites internet qui sortent sur le web, où il y a des gens comme vous,
on ne
peut
les femmes,
être que culpabiliser.
Ah mais je culpabilise pas du tout, moi mon site s'appelle Afterbase, et mon site il rappelle aux jeunes que sexualité et procréation sont liées justement pour que les jeunes filles n'avortent pas.
Daniel Barillot, je viens d'une expérience très intéressante, je suis argentin et j'étais en Argentine quand il y a eu le débat sur la loi donc pour l'IVG, et on est dans une situation très dramatique dans mon pays, puisqu'effectivement l'IVG est illégale, et ce qui se passe c'est que les femmes qui peuvent le faire, qui ont de l'argent pour pouvoir aller en Uruguay ou le faire dans des cliniques privées et payer l'équivalent de 2000 euros, ils n'ont absolument aucun problème. Et moi, je vois exactement le fait contraire, enfin l'exemple contraire de ce que vous présentez en France, puisqu'en fait, dans un pays où c'est interdit, il y a beaucoup de femmes qui meurent du fait de ne pas pouvoir accéder à l'IVG. Et ce que je trouve donc intéressant, c'est le fait qu'il y a à la fois, comme vous dites, un débat anthropologique, un débat sociologique, un débat moral, mais aussi une urgence dans les pays où c'est pas du tout régulé, comme en Argentine ou dans d'autres pays de l'Amérique latine, à cause des pressions qui sont liées effectivement à l'Église catholique et à l'Église des évangéliques. Et en fait, ce qui est très dramatique, c'est l'hypocrisie, parce que je vois des femmes qui accèdent très librement, contre la loi, sans s'inquiéter du tout, parce qu'ils ont de l'argent, et la plupart des femmes qui n'ont pas de moyens dans des bidonvilles, qui crèvent, parce qu'ils passent par les mains de personnes qui essayent de le faire avec des moyens complètement contraires à tout l'hygiène et tout ce
mais
qui
c'est
est...
Un, mais c'est un argument par l'absurde. Enfin, je suis désolé, je dis juste un truc, c'est que vous dites, Émile en gros, il y a des femmes qui vont subir en fait l'avortement parce qu'en fait il faut le légaliser parce que sinon elles le subiront illégalement. Mais il y a des gens qui se suicident. Vous n'allez pas légaliser le suicide tout simplement parce qu'il y a des gens qui se mettent leur vie en danger parce qu'ils se suicident.
Non mais
c'est complètement absurde comme
raisonnement. Pardonnez-moi. Moi je pense que vous partez vraiment. Enfin, Émile Dubord part d'un présupposé à la fois religieux et moral que tout le monde ne partage pas.
Humanitaire.
Et donc la question qui se pose en réalité, c'est bien la question de savoir si une femme a la liberté de disposer de son corps et si elle a la possibilité ou pas de choisir de garder un enfant. Bien sûr que les choix, tous nos choix sont toujours contraints, mais il est des situations où les femmes ne souhaitent pas garder un enfant. Parce que garder un enfant, en réalité, aboutirait à ce qu'il soit finalement maltraité. Elles savent ce qu'il en est. Et donc, il faut vraiment que les femmes aient cette liberté-là. On n'a pas à choisir pour elles. C'est pour ça qu'en France, vraiment, la loi Veil est une loi absolument, mais fondamentale. Et ce qui est très grave aujourd'hui en France, c'est qu'en réalité, on essaye de grignoter son application avec la fermeture des plannings familiaux, avec des revendications qui sont qui vont toujours dans le sens de moins de moyens pour pouvoir pratiquer ces avortements, parce que, en effet, c'est le choix des femmes et que ce choix-là, eh bien, elles doivent l'avoir.
On va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre ce débat. Tout de suite, sans transition, on se retrouve en 93 avec du rock, pas n'importe lequel, celui de The Breeders.
Cannonball.
Cannonball. Flash. The Breeders dans le NRV, ça vous plaît Christophe Bourseiller?
Ben, j'aime beaucoup, qu'est-ce que c'est pas de ma faute,
on
c'est
se
ma musique,
pas, hein.
It's my music man.
Thank you to the March for Life.
Merci à la Marche pour la Vie.
We are with you all the way.
On est avec vous.
Le nouveau rendez-vous.
Les parlementaires de Louisiane ont adopté un projet de loi interdisant l'avortement dès lors que les battements du cœur de l'embryon sont décelables, soit dès la sixième semaine.
Aux États-Unis, ce vote du Sénat d'Alabama, l'IVG serait autorisé pas même après un viol ou en cas d'inceste, mais uniquement en cas de danger immédiat pour la vie de la mère.
The baby is born.
Le bébé naît.
The mother meets with the doctor.
La mère rencontre le médecin.
They take care of the
baby. Ils prennent soin du bébé.
And then the doctor and the mother
et puis le docteur et la mère décident s'ils vont tuer le bébé ou pas. Je ne suis pas d'accord.
Laurent Goumard, sur France Inter.
Les Pro-Vie contre-attaquent aux États-Unis face au droit d'avorter. On fait le point ce soir dans le NRV. La suite avec nos invités. Daniel Borillo, juriste. Émilie Duport, militant chrétien, porte-parole du mouvement Les Survivants. Caroline Mécari, avocate, conseillère de Paris. Marie-Cécile Nave, politologue. Et Catherine Soula, gynécologue. Vous vouliez reprendre la main,
Christophe? Oui, parce qu'on a parlé des USA, de l'Espagne, on aurait pu parler de l'Espagne, de la Pologne, il y avait le Brésil, on a parlé de l'Argentine, bien sûr, et de beaucoup d'autres pays. Mais en France aussi, il y a toute une mouvance politique, religieuse, qui lutte contre les IVG. Alors, Catherine Soula, vous qui pratiquez des IVG, est-ce que vous avez, vous, dans votre service, subi des menaces?
Ou des pressions?
Oui. On a eu la visite des opposants à l'avortement qui se sont enchaînés aux tables d'examen, qui ont essayé d'empêcher les interventions ce jour-là. On a réussi quand même à faire les interventions et ils ont mis la journée à partir.
Ils n'ont pas pu être évacués par les forces de sécurité?
Ouais. Curieusement, le commissaire de police était là, mais ils n'ont pas fait grand-chose.
Carole Mécari, comment on peut intervenir sur le plan juridique?
C'était dans les années 2000.
Bah écoutez, ouais. je ne sais pas, mais normalement on aurait dû les faire évacuer.
Et de mémoire,
je crois qu'aujourd'hui il y a une infraction qui est liée au fait
délit d'entrave à l'IVG.
Voilà.
Donc on n'a plus ces attaques maintenant qu'on avait.
Voilà. Mais il n'en demeure pas moins qu'en fait il y a une très grande virulence et un très grand activisme des anti-avortements, à la fois parce que déjà en France ils organisent aussi cette marche pro vie chaque année au mois de janvier, qu'ils sont en relation, c'est pas uniquement un mouvement d'ailleurs national français, c'est aussi un mouvement transnational qui rejoint des Polonais, des Espagnols, enfin un peu partout en Europe, et il y a une volonté véritablement, mais qui est une volonté à la fois politique et religieuse, il faut pas s'y tromper là-dessus, de remettre en cause le droit à l'IVG pour toutes les femmes.
Émile Duport, vous, quels sont vos moyens d'action?
Alors mes moyens d'action, le délit d'entrave, effectivement, je connais bien parce que j'ai fait voter une loi sur le numérique qui était liée pour arrêter mes sites, quoi. Enfin, finalement, j'ai reçu aucune condamnation, ce qui prouve bien que je respectais la liberté des femmes. Ce qui me fait marrer, c'est quand j'entends parler de virulence, etc. Enfin, il y a un côté complotiste, on a l'impression que c'est les chemises brunes qui remontent, etc. Attendez, on défend une idée simple, c'est que toute vie vaut la peine d'être vécue. Donc les pacifistes, c'est nous. C'est pas nous les vénères, c'est pas nous qui pensons, qui jugeons à la place d'autrui du bonheur de trucs qui pensons qu'il y a un cahier des charges du bonheur et que finalement, dans le cas de l'avortement, il n'y a qu'un seul corps qui est en jeu. Non. Quand vous dites une femme a le droit de disposer de son corps, je suis bien d'accord. Quoique, encore, disposer de son corps, c'est bien présomptueux.
Voilà, hein,
c'est bien présomptueux parce qu'en fait, disposer de son corps, il faut encore pouvoir le pouvoir. Quand vous serez malade, quand vous serez vieille, vous ne pourrez pas disposer de votre corps et vous aurez besoin d'un autre pour vous aider. Donc, la disposition de son corps n'est pas
est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Parce que vous voyez, je lis, dans l'État de Géorgie, avorter après 6 semaines de grossesse, c'est risquer la peine de mort.
L'Alabama, c'est l'État des États-Unis où le nombre d'exécutés à mort est le plus élevé par habitant de tout le pays. Et par ailleurs, c'est un des États qui effectivement veut revenir, par fanatisme, parce que c'est du fanatisme en fait, de revenir sur la liberté des femmes, confondant de manière plus ou moins consciente ou volontaire, enfin faisant semblant de confondre fœtus, embryon et bébé. Un bébé, c'est pas un fœtus, c'est pas un embryon.
Du fanatisme de m'empêcher de vivre ou d'avoir empêché mon frère ou ma sœur de vivre. C'est vous les fanatiques.
C'est vous qui êtes un fanatique et la loi est ainsi. Mais vous en déplaise.
Vous n'avez pas le droit de faire tout ce que vous voulez avec la vie d'autrui, c'est tout. Et je suis désolé de vous le rappeler.
Daniel Borillo.
Il faut expliquer les compromis de la loi Veil en France. En fait.
Mais la loi Veil n'existe plus déjà. Arrêtez de parler de la loi Veil parce qu'elle n'existe plus depuis des lustres.
Il faut expliquer comment c'est la
juriste. pour un juriste, c'est la limite quand même.
Mais
la loi Veil, elle a été complétée
bien.
Par au moins 4 ou 5
mais lois
depuis.
Mais peu importe, on l'appelle la loi Veil, enfin, mais parce, bah ouais, mais parce qu'il est fondateur. Non, mais vous êtes dans la négation, c'est ça. Vous voulez être dans l'effacement.
Mais il faut expliquer, en fait, vous voyez qu'on a des positions, donc il y a effectivement deux idées qui ne sont pas conciliables. L'idée que donc la vie, il faut être... La vie doit être protégée du commencement et un autre point de vue qui considère que la vie est protégée dès la naissance. Donc c'est des points de vue irréconciliables et je pense que la loi française a essayé justement d'arriver à ces compromis, à dire il n'y a pas un droit à l'IVG, il y a simplement une dépénalisation. Mmh. Et donc peut-être cette ambiguïté mène au fait que c'est toute sa fragilité et toute sa force.
Mais c'est tout
sa
c'est
fragilité
juste.
Puisqu'effectivement il n'y a pas un droit qui soit considéré comme un droit fondamental inscrit dans la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme et à la fois un compromis vis-à-vis aussi d'un public ou des gens qui considèrent que la vie doit être protégée du commencement. Et la première chose qui dit la loi, c'est ça, c'est que la vie est protégée du commencement, il y a simplement une dépénalisation.
C'est vrai.
Donc vous voyez, je pense que c'est un compromis, comme tout
mais
dans
le
droit.
Mais c'est la loi originale. C'est la loi originale, elle a été changée depuis. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une
élargie,
loi...
Elle a été élargie, oui, elle a été élargie.
Attendez, quand
donc,
on parle
voilà.
de droit fondamental à l'IVG, excusez-moi, on est loin de l'intention de Simone Veil qui était de protéger la santé
attendez,
des femmes.
Mais bien sûr que toute loi évolue, monsieur, enfin, on n'est
ah,
pas...
Ah bien sûr.
Bah oui, bah, donc voilà, bah, à partir de là, on tient compte, on tient compte à la fois des évolutions de la médecine, des évolutions sociologiques pour que la loi soit la meilleure possible. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec, dans ce cadre-là.
Et c'est quoi ce pacte Simone Veil que le Nathalie pacte... Loiseau et Marlène Schiappa ont dégainé récemment?
Oui, en fait, en réalité, c'est, bien sûr, elles l'ont nommé pacte Simone Veil. Ça
pour
vient...
harmoniser les droits des femmes
voilà,
en Europe.
Voilà, ça vient. C'est une revendication de Gisèle Halimi, donc grande avocate de la cause des femmes, et de choisir son association, qui consiste à dire qu'au fond, en Europe, dans l'Union européenne, il devrait y avoir ce que l'on appelle la clause de la clause pour la femme les plus favorisées. C'est-à-dire on prend dans tous les pays les meilleurs standards de garantie pour les droits et les devoirs des femmes, de manière à ce qu'ils soient, ce soit les mêmes dans tous les pays. En fait, c'est cette idée-là, l'idée d'une clause de la femme la plus favorisée, et on regarde dans chacun des pays quels sont le plus haut standard de droits, et on l'applique dans tous les pays de l'Union européenne.
Et donc, au niveau de l'IVG, ça serait ?
Au niveau de l'IVG, alors j'ai pas regardé dans le détail, mais enfin bon, je pense que la France est une bonne référence en la matière. Bien sûr, il y a certainement des améliorations
Daniel
possibles.
Non, les Pays-Bas en fait, puisque
peut-être que les Pays-Bas font davantage, mais enfin la France se situe là sur cette question-là, se situe plutôt dans une bonne échelle.
Oui, je suis d'accord. Les Pays-Bas, c'est très bien. Ils ont une législation encore plus favorable que nous, parce que c'est jusqu'à 22 ou 24 semaines.
Et pourquoi 22-24 semaines finalement? Pourquoi pas avorter à 8 mois et demi? Alors finalement, qu'est-ce qui se passe entre cette 22 et cette 23e semaine, par exemple, de magie qui fait que d'un seul coup, dans un pays, on a le droit d'avorter et dans un autre pays, on n'a pas le droit?
Catherine Soula, vous qui
c'est,
êtes gynécologue.
La limite aussi, quand un prématuré est né, est-ce qu'on peut le sauver ou pas?
Donc, ah oui, d'accord.
Pour des raisons médicales.
Pour des raisons médicales.
Oui.
D'accord, donc il avait une chance s'il est prématuré, mais par contre, s'il a avorté, il n'a pas de chance. D'accord.
Pas forcément, parce que quand vous êtes un très grand prématuré, ça peut être votre vie peut être très très compliquée. Donc.
D'accord. Pardon.
Oui.
Ouais, je parlais juste de la loi évolue en fonction des progrès de la médecine, mais ça me fait doucement rire parce que la médecine, elle nous a appris, la médecine moderne nous a appris que le zygote et la cellule embryonnaire avaient toutes les capacités d'être vous ou moi. Donc elle est pleinement un être humain et il n'y a pas un scientifique pour nier cela. Donc en fait, la loi justement, elle nous apprend qu'on élimine des êtres humains. Donc je vois pas pourquoi on continue à se voiler la face en disant c'est un embryon, c'est un amas de cellules, c'est un mensonge.
Daniel,
mais
la loi a choisi.
Même Nizan le dit.
Il y a deux intérêts qui sont opposés d'après vous. Ça serait l'intérêt donc du fœtus ou de l'embryon et l'intérêt de la femme. Donc la loi a choisi l'intérêt de la femme justement parce que aujourd'hui on ne connaît pas un autre système. Pour produire ou pour reproduire un être humain, c'est le corps de la femme. Est-ce qu'on va obliger une femme qui ne désire pas avoir un enfant d'avoir 9 mois dans son ventre, donc cet embryon? Et la loi a décidé, comme tout évidemment, parce que la loi est pratique, la loi doit décider pour des gens qui ont des principes religieux ou pas, pour toute situation, donc c'est toujours un compromis. Et dans ces cas, dans des conflits d'intérêts entre la femme et l'embryon, on a choisi la femme, parce qu'on voit mal comment on obligerait une femme à avoir dans son corps pendant 9 mois.
Mais personne n'a obligé, hein.
Non, mais
d'avoir la tête tombée enceinte, personne ne l'a obligé.
Il y a quand même des cas de force majeure, monsieur.
Alors, il y a des cas de force majeure, mais la plupart du temps, personne ne l'a forcé d'être enceinte.
Ah oui, l'inceste, le viol.
Mais oui, non, mais d'accord, mais on parle d'inceste ou de viol. Mais attendez, 100% des avortements ne sont pas des incestes ou des viols. Je suis désolé, c'est 0,001% des.
Mais bien sûr. Ça, c'est pas vrai. Si vous parlez avec le planning familial, vous verrez que les.
Évidemment, c'est les idéologues.
Parce que vous n'êtes pas un idéologue. Vous êtes un idéologue. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que vous avez le droit de penser comme vous pensez pour vous. Et les gens, les femmes qui partagent votre opinion ont tout à fait le droit de penser la même chose que vous. Mais là où vous êtes un idéologue, c'est qu'en réalité, vous souhaitez imposer votre vision et votre conception du monde et de la vie à tout le monde.
Mais vous imposez.
Non, on ne vous impose rien. Vous n'êtes pas obligé.
Vous m'avez imposé d'être avorté.
Vous n'êtes pas obligé.
Vous avez avorté mon frère ou ma sœur. Vous m'avez rien imposé. Évidemment, vous m'avez imposé.
Monsieur, vous n'êtes pas obligé. Et surtout pas vous d'ailleurs, parce que vous êtes un homme et donc vous ne pouvez pas avorter, mais votre conjointe ou les femmes qui vous entourent ne sont pas obligées de pratiquer un avortement. Elles ont la liberté de choix. Et je considère véritablement que cette liberté de choix, elle est fondamentale. Vous n'avez pas à dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Vous avez le droit de penser ce que vous pensez. Ça, personne ne vous l'empêchera. Mais laissez d'autres penser autrement et agir autrement. Ce n'est pas du relativisme. C'est justement exactement le contraire du fanatisme que vous incarnez.
C'est du pur relativisme moral.
Marie-Cécile Nave.
C'est vaseux.
Marie-Cécile Nave.
Je crois que c'était très clair. C'est amusant d'être en plateau avec un fanatique. Moi, je connais plutôt les fanatiques américains qui s'appuient sur une méconnaissance assez abyssale des questions de santé, des questions scientifiques, des questions sociologiques aux États-Unis, avec par exemple une méconnaissance totale du fonctionnement gynécologique des femmes. On retrouve des arguments tout à fait hallucinants dans les élus qui viennent de voter ces lois en Alabama ou en Géorgie, ne comprenant pas pourquoi la limitation des naissances, la contraception, l'avortement peuvent être aussi pratiqués pour des raisons médicales.
Baby.
Juice, c'est le titre pour De La Soul, signé Lizzo, dans le NRV. Oui, Christophe.
Oui, oui.
France Inter.
Ce combat, nous le menons depuis plus de 40 ans. 40 ans de résistance et de figures historiques telles celles du professeur Jérôme Lejeune.
Le nouveau rendez-vous.
Nous serons la voix des enfants qui ne pourront jamais parler. Parce que la liberté de choisir la vie n'est pas une option.
Allez dire partout que l'embryon qui grandit dans le ventre de sa mère est un petit homme, un homme tout petit, et non un amas de cellules.
Laurent Goumard.
Une compilation des propos de la Marche pour la vie. Ce mouvement anti-avortement se fait encore plus entendre près de 40 ans après la dépénalisation de l'IVG. On en parle ce soir dans le NRV La Suite avec nos invités. Alors, en France, le droit n'est pas remis en cause, mais en mars dernier, le syndicat des gynécologues obstétriciens, le SINGOF, avait menacé d'arrêter les IVG.
Grève de l'IVG.
Et en septembre 2018, le président de ce même syndicat avait indiqué qu'il refusait de pratiquer cet acte, je le cite, « Les choses auxquelles je ne crois pas, je ne les fais plus. Nous ne sommes pas là pour retirer des vies. » Catherine Soula, vous êtes gynécologue. Comment vous regardez, comment vous expliquez qu'un président de syndicat ait pu réagir de la sorte? Des propos ont été condamnés d'ailleurs depuis par Agnès Buzyn. Et puis même le syndicat s'est désolidarisé du propos de son président.
J'en reste un peu sans voix, mais il a pris la solution de facilité parce qu'il ne pouvait pas dire qu'il arrêtait les accouchements. Donc il a dit qu'il arrêtait les IVG. De toute façon, je pense qu'il n'en a jamais fait. Et il y a cette histoire de clause de conscience en France qui est spécifique à l'IVG, et alors qu'on a déjà une clause de conscience générale en médecine qui est largement suffisante, quoi. On devrait arrêter cette clause de conscience spécifique. Après, il ne faut pas non plus obliger tous les médecins à le faire, parce que dans ce cas-là, ça peut être, enfin, s'ils sont contre, ça sera très mauvais pour les femmes.
Marie-Cécile Nave.
Oui, la Fondation.
Clause de conscience, quand même, c'est très étrange. Hein.
Où la Fondation Jérôme Lejeune et autres militants fanatiques divers et variés sont aussi opposés à tout ce qui concerne l'enseignement de l'égalité filles-garçons à l'école, la lutte contre les stéréotypes de genre, moi-même j'en ai été victime, envoyée à une certaine époque des lettres de menace, cabinet ministériel, etc. Donc on voit bien qu'il y a derrière cette un peu alibi de la défense de la vie, en fait, il y a un refus de l'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, et cette volonté toujours de contrôler les femmes, de les empêcher de disposer librement de leur corps et de choisir leur vie. C'est ça qu'il y a derrière. C'est une idéologie patriarcale qui, aujourd'hui, évidemment, se sent peut-être plus menacée qu'il y a quelques années encore.
Émile Dupont, je vous vois trépigner.
Non, mais en fait, ça me fait marrer parce qu'en fait, pour moi, l'avortement, c'est le truc qui défend le patriarcat, justement. C'est le truc qui a déresponsabilisé les hommes et qui les a empêchés d'assumer leur paternité. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se disent à leur meuf, finalement, c'est ou lui ou c'est moi qui dégage. Ou qui même disent, mais en fait, moi, je veux pas en entendre parler de cet enfant, etc. Ou pire, de chez pire, choisis ma chérie, je serai là quoi que tu choisisses. En gros, avorte, ça m'arrange, voilà. Donc, en fait, le patriarcat s'exprime par l'avortement, justement, et la misogynie aussi. La meilleure manière de protéger les femmes, c'est de leur donner la garantie qu'un nouvel enfant ne gâchera pas leur vie. C'est ça, le libre choix. Et si vous donnez, c'est évidemment, quand vous avez un enfant toute la vie, monsieur, je sais plus votre
Daniel
nom,
Borio,
vous disait dans l'intérêt de la femme ou de l'enfant. Et vous avez l'air de dire que finalement, la loi a choisi l'intérêt de la femme, oui, et pas celui de l'enfant. Mais pour moi, c'est faux.
Est-ce que vous acceptez par exemple l'IVG dans le cas
de viol? Mais attendez, c'est une réalité scientifique. Arrêtez de vous battre contre les évidences. Mais quand on parlait d'hypocrisie, mais non, mais je m'énerve parce que vous dites un mensonge et ce mensonge, j'en peux plus de l'entendre. Il
n'y
a pas un scientifique qui vous dira le contraire. On les fait venir, la même Nizan, qui est le promoteur de l'IVG, le dit, c'est un être humain. La seule différence,
c'est une vie.
Non,
la loi dit, c'est une vie, pas un être humain.
Israël Nizan ne dit certainement pas.
C'est deux choses différentes, bon, Daniel Borio.
Donc, il faut revenir quand même aussi un certain nombre des chiffres. Donc, parce qu'en fait, après, il y a des fantasmes et pas des réalités. Depuis qu'il y a la loi sur l'IVG en France, les nombres de naissances et les nombres de femmes qui ont des enfants ou n'ont pas d'enfants demeurent le même. Il y a à peu près 10% de femmes qui n'ont pas d'enfants en France. Donc, vous voyez, ça n'a pas changé la quantité d'enfants ou le nombre d'enfants désirés ou souhaités par les femmes, d'une part. D'autre part, le nombre d'IVG sont stables depuis de nombreuses années. C'est aux alentours de 200 000.
Un enfant sur cinq,
c'est
je rappelle.
Stable aussi depuis un certain nombre d'années.
Un
donc en fait, vous voyez bien.
Bonjour la stabilité, quoi.
Ce n'est pas un enfant, c'est un embryon.
Vous voyez bien que ces compromis, qui est le compromis de la loi française, qui est pour moi
très insuffisant, puisqu'en fait, il y a, dès la naissance, pour des raisons aussi politiques, on a voulu dépénaliser plutôt que d'écrire un droit, et on voit maintenant toute la difficulté, parce que même aux États-Unis, où on avait utilisé la notion de vie privée, qui est une notion bien plus puissante que la notion de dépénalisation, parce que la question de la vie privée renvoie à un choix personnel. On peut être contre, on peut être même choqué par rapport à ces choix personnels, mais donc la Constitution américaine, interprétée par la Cour suprême, considère que c'est un choix personnel de la femme. Donc en France, on n'a pas choisi le droit subjectif, la vie privée, on a choisi simplement de dire, d'une part, c'est dépénalisé, et une autre question qu'on devrait soulever, c'est le fait, la place du médecin. Parce que nous savons des médecins qui sont progressistes, mais pourquoi, par exemple, la loi française a donné un tel pouvoir aux médecins? Bon, maintenant, on n'a plus l'entretien, mais souvenez-vous, avant, quand il y avait ces entretiens préalables, ce n'était pas la femme in fine qui décidait, mais c'était le médecin.
Catherine Soula, vous
êtes gynécologue. Non, l'entretien, c'était avec une conseillère conjugale ou une psychologue, c'était pas avec les médecins. C'est quand même la femme qui décidait.
Mais
même avec cet entretien,
la notion des détresses qui est disparue récemment, vous voyez bien que cette notion des détresses est une notion qui limitait l'accès à l'IVG par les femmes en France, parce que qui décidait s'il y avait ou pas détresse? C'était bien.
La femme.
Mais personne. Non, donc, du coup, il y avait la détresse à chaque fois.
C'est très récent que la femme le fait. Mais maintenant, ça n'existait plus, la détresse. Mais d'après ce que j'ai vu dans les statistiques sociologiques, c'est que pendant très longtemps après la loi Veil, la notion des détresses renvoyait en fait au médecin qui pouvait décider s'il y avait ou pas détresse pour que la femme puisse accéder à l'IVG.
En revenir sur le vote de la loi Veil en 1975, on est dans un contexte sociologique qui est particulier, qui est le contexte de l'époque, c'est-à-dire encore une société extrêmement patriarcale, où la question d'obtenir le vote de cette loi, qui est quand même un pas considérable pour les femmes, est le fruit d'un compromis, on va être très clair, c'est le fruit d'un compromis. Donc on a toutes ces précautions de langage sur la détresse, etc. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Et aujourd'hui, si une femme se retrouve dans une situation où elle est enceinte, alors qu'elle ne l'a pas désirée, pour x, y raison, et à la limite, peu m'importe la raison, elle a la possibilité d'abord de s'informer auprès des plannings familiaux. Il y a le site qui s'appelle ivg.gouv, qui est un site officiel qui lui donne toute une série d'informations. Elle peut rencontrer des personnes qui vont l'accompagner éventuellement dans cette démarche, ou peut-être même démarche qui aboutira à ce qu'elle renonce. Mais en tout cas, elle a la liberté de choix. Et c'est ça qui est essentiel, et c'est ça qu'il faut impérativement conserver, garantir, non pas...
Juste une dernière question. Comment on comprend que 40 ans après la dépénalisation de l'IVG, dans un pays où quand même la contraception est largement répandue, comment on explique que le nombre d'avortements est toujours aussi important en France? C'était dans un dossier de la Croix en septembre dernier.
C'est en particulier à cause des incestes et des viols.
Donc ça vient mettre à mal votre argument tout à l'heure.
N'importe quoi. Mais c'est d'où vous tirez ça, quoi? Mais d'où vous tirez cette info?
D'études scientifiques d'enquêtes faites par le planning familial. Vous êtes bien placé pour me parler de lobby.
Mais n'importe quoi.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. À moins que vous en ayez trouvé
un. J'en ai trouvé un, j'ai cherché. Mais alors, j'ai une phrase de Daniel Borillot que je m'ai trouvée intéressante. Il n'y a pas eu droit à l'IVG, il y a eu dépénalisation.
Merci à vous tous et toutes. Merci Catherine Soula. Merci Daniel Borillot. Disposer de son corps, un droit encore à conquérir. C'est disponible aux éditions textuelles. Émile Duport, on peut vous lire sur le site de Boulevard Voltaire. Caroline Mécari, PMA et GPA, des clés pour comprendre, est paru au PUF. Et enfin, Marie-Cécile Nave, Trump, la revanche de l'homme blanc, est toujours publiée chez Textuel. Exactement. Le NRV, c'est fini pour aujourd'hui. Cette année, c'est chaque jour, dès 18h, en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. Ou alors, c'est simple, on se retrouve à l'antenne à 22h jusqu'à minuit. Comme tout le monde, on reste en lien, s'il vous plaît, sur Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag NRVFI. Anne-Cécile Perrin et Juliette Médeviel pour la réalisation. Virginie Rosic, Corinne Valente, Laure Grand-Besançon, Benoît Lagane, Gaëtan Lévy et Louisa Chauss. Ça, c'est pour la préparation à la technique. Alexandre Chenet et Philippe Duclos. Demain, on se retrouve et on sera là avec ça. Burnout au travail. Est-ce que le travail, c'est vraiment la santé? Ce sera dans le NRV la suite. En première heure, direction la Pologne des années 40, avec Élise Otzenberger en pleine lune de miel au cinéma, avec Mélodie Mouret et ses crapauds fous, oui, au théâtre. Tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Alors à demain.
Rendez-vous. Tu m'as donné rendez-vous demain.